por favor.
Pues saludamos al diputado Roland Lescure, él es vocero de la República en Marcha, que es el pues partido del presidente Emmanuel Macron, y a propósito, pues me gustaría, Juan Pablo, que le preguntemos al vocero de la República en Marcha, ¿cuáles serán las claves para que en estos 15 días el presidente Emmanuel Macron convenza al electorado de votar por él y no quedarse en la abstención, que este domingo también fue muy alta con las casi 30%, 27%, Juan Pablo?
Monsieur Roland Lescure, bonjour, bienvenue à l'antenne de la W Radio.
Bonjour.
Bon, la première question que ma collègue veut vous poser, c'est au sujet de comment faire, comment va faire le candidat Macron pour faire que plus de Français aillent voter en 15 jours et pouvoir changer ce chiffre d'abstention qui a été certainement haut dans les élections d'hier.
Oui, alors le chiffre, merci de l'invitation d'abord, le chiffre de l'abstention était moins haut que ce qu'on craignait. On a quand même presque 75% des Françaises et des Français qui ont été votés. Le risque dans un deuxième tour assez prévisible entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est que l'abstention monte au second tour. Donc oui, il faut mobiliser les gens pour qu'ils aillent voter au second tour.
Pues nos dice que en realidad la cifra de abstencionismo fue mucho menos alta de lo que se esperaba. El hecho de hablar, Florencia, de un 75% de los votantes que sí fueron a las urnas, pues es algo que de todas formas es una buena señal. Sin embargo, el mayor temor hoy día es que haya un mayor abstencionismo en esa segunda vuelta, y esa es la tarea, evitar que la gente deje de votar en el enfrentamiento ya entre Macron y Marine Le Pen.
El presidente Macron dijo ayer que él reconocía que mucha gente seguramente votará en segunda vuelta no por él, sino en contra de Le Pen. ¿Eso será suficiente para ganar esa segunda vuelta?
El presidente Macron ha dit hier que c'est quelque chose de sûr que en 15 jours il y aura plus de gens qui voteront contre Le Pen au lieu de voter pour lui. Est-ce que vous croyez que c'était quelque chose qui devait être dit?
Non, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait voter pour lui d'abord, et plus pour lui que contre Madame Le Pen, même si à l'élection présidentielle française, souvent on dit qu'on choisit au premier tour et qu'on élimine au second tour. C'est un peu une habitude. Non, il faut qu'on convainque notamment les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui était plus de 20% à voter pour lui, que sur certains domaines comme l'écologie, comme le social, comme la jeunesse, comme les quartiers difficiles, le projet d'Emmanuel Macron, évidemment, est bien plus favorable que celui de Madame Le Pen. Et puis, il faut rappeler quand même que Madame Le Pen a été historiquement très proche de Monsieur Poutine, et que dans cette période de guerre, il faut aussi choisir le chef d'État qui sera lo mejor a même de mener la France en cette période extrêmement difficile.
Bueno, pues él nos dice, no, más que haber dicho que iban a votar en contra de Madame Le Pen, es que iban a votar más por él, mucho más por él que contra Madame Le Pen. Pero además dice él, que nuestro invitado, que esto responde, Félix, sobre todo a una frase muy común en Francia, y es que en primera vuelta se vota por quien quiere y en segunda vuelta se vota por quien uno quiere eliminar de la carrera presidencial. Así que lo que viene para el señor Macron es lograr convocar a los votantes de Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo de todas formas un porcentaje superior al 20% de los votos depositados ayer, y lo cual hace muy importante poder acoger o endurecer el discurso en los temas que fortalecieron a Mélenchon, como la ecología, como los temas sociales, la juventud en los barrios más difíciles. Y dice él que es atendiendo esos temas que se puede avanzar y conseguir más votos, y eso sí, no dejar que el país olvide que la señora Le Pen fue muy cercana a Putin y que en estos tiempos de guerra, pues ese tipo de relaciones no son bien vistas.
Marine Le Pen ha conseguido que su campaña se centre en el poder de compra de los franceses. Ha dejado atrás su imagen radical sobre la migración, sobre Europa, sobre la seguridad, y se ha basado en el poder de compra. ¿Cómo hará el presidente Emmanuel Macron también para subirse a esta gran preocupación de los franceses cuando, por ejemplo, se le critica mucho en este quinquenio de la crisis de los gilets jaunes, también de su reciente propuesta de la jubilación a los 65 años, de condicionar que haya un trabajo para el RSA, para esta ayuda social? ¿Cómo quitarle esta imagen otra vez de presidente de los ricos?
Monsieur Lescure, ma collègue dit que dans cette campagne, on a bien vu que Madame Le Pen a changé son discours. Elle ne parle pas autant comme avant de l'immigration, de l'Europe. Elle a commencé et maintenant son discours tourne autour du pouvoir d'achat. Comment faire pour aussi mettre le président Macron à parler de ce sujet-là qui est très proche aux Français, une situation qui est évidente, et de plus parce que elle se rappelle des protestes des gilets jaunes, et en fait d'une quantité de discours qui font dire aux gens que le président Macron est le président des riches et pas le président des gens qui ont des problèmes avec leur économie.
Oui, alors évidemment, il faut qu'on défende notre bilan, parce que le bilan est très différent de ce que vous venez de dire et de ce que Madame Le Pen veut montrer. Le chômage est au plus bas depuis 15 ans en France. Le pouvoir d'achat de toutes les catégories des Françaises et des Français ont augmenté depuis 5 ans. Donc il faut asséner notre bilan. Il faut aussi rappeler que le programme de Madame Le Pen, pas seulement ce qu'elle raconte, mais ce qu'elle a écrit, reste un programme de division, reste un programme où elle pointe du doigt les immigrés comme la réponse ou la cause de tous nos problèmes. Dernièrement, mes points très importants, montrer en quoi le programme de Madame Le Pen sur le pouvoir d'achat manque de crédibilité. Ce que Madame Le Pen propose, sans même le dire comme ça, c'est de sortir de l'Europe. Et ça, évidemment, c'est inacceptable et ça sera l'appauvrissement de la France.
Pues nos dice que, bueno, primero que todo, toca es defender los resultados y el balance hecho por el gobierno Macron. Y, por ejemplo, tenemos en este momento en Francia, dice nuestro invitado, el desempleo más bajo en los últimos 15 años. Y respecto a la capacidad o el poder de compra de los franceses, en este quinquenio se ha venido aumentando. En contraste, el programa de Le Pen, así lo hagan ver de una manera distinta, es un programa de la división, de dividir a Francia, señalando a los inmigrantes como la causa de todos los problemas. Es más, dice él, el plan de la señora Le Pen para poder mejorar la capacidad de compra de los franceses es salirse de la Unión Europea, lo cual sería un desastre. Así que, dice él, hay que enfocarse en la realidad de lo que ha significado el gobierno Macron.
Señor Esquio, abriendo el foco, ¿cómo explica usted la práctica desaparición del Partido Socialdemócrata, del Partido Socialista y del Partido Conservador?
On voudrait avoir un petit peu d'analyse politique avec vous, Monsieur Lescure. Comment comprendre que les deux partis traditionnels en France sont aujourd'hui presque disparus dans le scénario de cette présidentielle?
Oui, c'est à la fois, la poursuite d'un mouvement entamé à la dernière élection présidentielle, où pour la première fois, aucun des deux partis traditionnels n'était qualifié pour le second tour, alors qu'ils ont géré la France pendant plus de 30 ans alternativement. C'est aussi, malheureusement pour eux, le résultat d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années de difficultés idéologiques pour ces deux partis, notamment dans leur relation à l'Europe. Le Parti Socialiste était partagé par des mouvements plutôt pro-européens et des mouvements anti-européens. C'était aussi le cas du Parti des Républicains. Et Emmanuel Macron, en portant un discours pro-européen en 2017, avait déjà commencé à prendre le dessus de cette thématique pro-européenne. Et il faut reconnaître que Éric Zemmour et Marine Le Pen ont récupéré une bonne partie de l'électorat anti-européen de la droite, et M. Mélenchon a récupéré une bonne partie de l'électorat pas très pro-européen de la gauche. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un mouvement central de M. Macron, et deux mouvements à gauche et à droite qui sont plutôt, je dirais, populistes et nationalistes, qui tous les trois vont remplacer les deux partis traditionnels.
Pues nos dice esto, Rafael, y es el resultado de una realidad que desde la elección presidencial anterior podía verse consolidada, y es que desde que estos dos partidos, ni la izquierda ni la derecha, ni los socialistas ni los republicanos, lograron llegar a la segunda vuelta presidencial, empezó a notarse el desgaste de más de 30 años de estos partidos que no lograban representar entre ellos o cada uno una visión política clara. De hecho, nos dice, mire, el Partido Socialista en esa elección anterior terminó dividiéndose entre unos pro Europa y otros anti Europa. Él nos señala que, entre tanto, los republicanos eran más conservadores en ese sentido. ¿Qué hizo Macron? ¿Y qué es lo que lleva a Macron a obtener un gran respaldo? Él se mostró pro Europa. Y ahora, en el escenario presente, Éric Zemmour, Marine Le Pen representan anti-Europa desde la derecha y Jean-Luc Mélenchon desde la izquierda es una izquierda anti-europea. Así que, mientras que ellos tres, desde las dos orillas, se muestran anti-Europa, unos populistas, unos nacionalistas, Macron es pro-europeísmo.
Mélenchon gana entre los más jóvenes. Le Pen tiene la mayoría de sus votantes entre 35 y 64 años. Y Macron arrasa entre los mayores de 65. ¿Qué le dice a él esa distribución del voto por edades y qué reto significa para la segunda vuelta?
Monsieur Lescure, Jean-Luc Mélenchon est plutôt voté par les plus jeunes. Ensuite, c'est Madame Le Pen qui a le vote des adultes qui sont en train de vivre la vie du travail jusqu'à 65 ans. Et ensuite, il y a ceux qui votent pour Macron, c'est une population qui se trouve au-dessus des 65 ans. Comment comprendre cette distribution du vote en France?
On a une France un peu coupée en trois. Alors, peut-être par tranche d'âge, moi je dirais surtout par sociologie. Madame Le Pen parle à l'électorat populaire dans les territoires éloignés. Monsieur Mélenchon a parlé aux jeunes des banlieues. Et Emmanuel Macron, même s'il est présent dans les territoires plus qu'en 2017, beaucoup aux électeurs urbains de la classe moyenne. Donc il faut qu'on aille chercher ces électeurs jeunes qui ont voté pour Monsieur Mélenchon. Je pense que sur l'écologie, on peut faire mieux, notamment sur l'incarnation d'une vision. Vous savez que la France est déjà un des pays qui émet le moins de gaz à effet de serre par habitant au monde, mais on doit donner une vision peut-être plus positive, raconter une histoire de notre transition écologique qu'on a peut-être insuffisamment racontée aujourd'hui, mais c'est en tout cas l'image d'une France divisée qu'il faut réussir à rassembler. Je peux vous dire que Emmanuel Macron souhaite le faire, alors que Madame Le Pen reste plutôt quelqu'un qui divise.
Pues nos dice que en realidad estamos viendo una Francia que está cortada en tres partes o dividida en tres partes. Por un lado, y aunque él sí reconoce que está relacionado con el tema de la edad, pensaría él que es más un tema sociológico. Marine Le Pen está representando más a los franceses de las zonas rurales, quienes no se encuentran en los sectores urbanos y más privilegiados. Mélenchon sin duda ha logrado conectar por su discurso con los jóvenes, y Emmanuel Macron más cerca de la clase media urbana. ¿Cómo recuperar ese terreno perdido y lograr conquistar a los franceses que quedaron ahora sin sus candidatos? Dice él, tal vez la respuesta está en la ecología, el tema ecológico, en el cual Francia tiene un liderazgo mundial importante, por ejemplo, en haber logrado reducir emisiones, pero tiene que insistirse en eso, mostrar lo que se ha logrado y prometer mayores avances en un asunto que sin duda podrá conquistar a unos votantes mucho más jóvenes. Député Roland Lescure, merci bien de nous avoir accompagné ce matin sur la W. Une bonne journée.
Bonne journée, gracias, muchos.